Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous dévoiler une quatrième saison que j'ai voulu plus riche et engagée que jamais. Au fil des épisodes, je vais continuer à raconter les histoires des chefs et fous d'entrepreneurs que j'aime, ceux qui, à mon sens, font bouger les lignes de ce monde de la restauration si fascinant. On inaugure fort aujourd'hui avec un jeune homme télégénie, talentueux, et fort sympathique, Maury Sacco.
J'ai envie en tout cas de proposer une version qui m'est personnelle et qui puisse avoir les marqueurs, on va dire, forts de la cuisine africaine dans sa globalité. Et qu'un client qui arrive et se dit avec des préjugés en se disant que la cuisine africaine, on peut l'imaginer grasse, et elle n'est pas forcément la plus instagrammable en soi, donc les visuels ne sont pas forcément les plus beaux, mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que les goûts, et la puissance aromatique et l'amplitude qu'on peut retrouver dans la cuisine africaine, elle est énorme. Donc apporter tous ces goûts, ces parfums et cette amplitude, on va dire, avec un esthétisme qui est plus dans les codes de la gastronomie mondiale, bah, ça pourrait permettre à cette cuisine de devenir, on va dire, entre guillemets, la cuisine asiatique de demain, quoi.
Maury incarne à lui seul le fait qu'on peut rêver en France. La cuisine, les palaces, il en rêvait gamin et il a réussi à force de travail à accéder au poste convoité de sous-chef au Mandarin Oriental auprès de Thierry Marx. S'il s'est fait remarquer dans la dernière saison de Top Chef, c'est bel et bien sa cuisine, à son image et qui ne s'interdit rien, que l'on retient aujourd'hui et que l'on peut désormais déguster dans son propre restaurant, Mosuke, qui ouvre ses jours-ci à Paris. Dans cet épisode, enregistré dans son restaurant en travaux, nous avons parlé de Nobu Matsuhisa, de Samouraï et de s'amuser. Le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde chaque nouvel épisode sur le site elle.fr avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Maury.
Bonjour Julie.
On est dans ton futur établissement, ça y est, t'es prêt à te lancer ?
Yes, c'est parti, donc quelque chose que j'attendais depuis longtemps, donc c'est super.
T'en as rêvé d'avoir ton propre restaurant ?
Ouais, je pense que c'est un rêve pour tous les cuisiniers, en tout cas c'était le mien et je suis tout proche du but quoi.
C'est vrai que tu dis que c'est un rêve pour beaucoup de cuisiniers, mais en tout cas toi c'était vraiment dans ton projet de carrière de l'ouvrir, tu t'étais fixé un objectif ?
Alors pour les objectifs fixés, je commence à me dire que c'est compliqué parce que tous les 6 mois en ce moment, voire tous les 3 mois, je le révise et c'est de plus en plus ambitieux. Donc au début, à la base, je n'étais pas forcément sur un concept où j'ouvrirais mon restaurant, mais plus j'avançais dans ma carrière et plus je me disais, bah, si je veux vraiment faire ma cuisine, bah, il me faut mon restaurant et voilà, c'est pratiquement chose faite.
Et c'est le bon moment aussi de l'ouvrir aujourd'hui, après Top Chef, c'était un peu calculé.
Alors, après Top Chef, ouais, c'était peut-être pas un peu calculé, c'est plutôt que Top Chef est plutôt une conséquence du pourquoi je voulais ouvrir mon restaurant. Mais si on prend mon planning personnel, c'est parfait. Si on prend le planning actuel dans l'actualité, c'est un peu plus compliqué.
C'est moins parfait. Mais ce que je veux dire aussi par là, le côté Top Chef, ça t'a aidé
à obtenir les financements, à te lancer plus facilement avec la médiatisation dont tu as bénéficié. Et j'imagine que c'est beaucoup plus facile d'avoir les prêts des banques.
Top Chef, ouais, c'est... Bah, le projet de restaurant existait avant mon inscription à Top Chef, mais Top Chef a accéléré les choses et j'ai gagné énormément de temps, on va dire. C'est un tremplin d'un point de vue médiatique, mais aussi comme jeune entrepreneur pour aller chercher les financements. J'ai jamais été aussi bien accueilli dans une banque de toute ma vie que qu'à ce moment-là, quoi.
Pourtant, ça n'avait pas commencé, en plus, la diffusion, tu disais, quand tu es allé chercher les financements.
La diffusion n'en avait pas commencé encore. Donc, quand j'ai été chercher mes prêts bancaires, donc avec mes financements, la chance que j'ai, c'est que pour mes financements, on va dire, mes apports, j'ai de la famille qui a financé avec moi, donc c'est quelque chose de très sain. Mais ensuite, il fallait que j'aille chercher le restant auprès des banques. Et puis, il suffisait que je leur dise, écoutez, j'ai fait Top Chef, bien sûr, de manière confidentielle, pour que on m'ouvre assez facilement les portes et derrière, pouvoir aller chercher mes prêts. Donc, c'est vraiment une vraie aide et un vrai facilitateur dans ce sens-là.
Même avant la diffusion, déjà, tu sentais qu'on t'ouvrait plus facilement les portes.
Même, oui, la diffusion, et sans savoir à quel moment ça s'arrêtait pour moi, les banquiers suivaient parce qu'ils savent que un bon parcours, et pour eux, c'est un restaurant qui a des grandes chances de fonctionner, sauf catastrophe.
Bon, a priori, je pense qu'ils ont eu raison de te suivre.
Ils ont eu un peu de flair.
Et t'ouvres avec dans le viseur des étoiles Michelin, ça te faisait rêver, les étoiles?
Moi, je joue vraiment avec cette ambition et cette envie d'aller chercher ces étoiles. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Après, c'est aussi une manière de travailler avec laquelle j'ai toujours vécu dans mon parcours professionnel. J'ai toujours travaillé dans des restaurants qui étaient soit étoilés, soit qui avaient une ambition d'être étoilés. Et je ne connais que ça, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est juste faire dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, quoi.
Et en même temps, là, tu viens de signer la carte de la terrasse des Dos, le restaurant de la terrasse du Palais de Tokyo. T'es à l'aise, ça va? C'était assez facile pour toi de te confronter à ce format plus street food, et alors que tu viens du registre gastronomique et t'arrives à être à l'aise dans ces deux formats-là?
Ouais, sur la terrasse du Palais Tokyo, donc je suis vraiment sur quelque chose de très street food, donc mon univers que je peux avoir qui était vraiment gastronomique, ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est quelque chose que moi j'adore faire. Et justement, ces mélanges d'influences qui moi m'animent, ça se prête mais particulièrement bien en street food, donc ça marche très bien en gastronomie, mais sur la street food aussi, et c'est des choses que j'aime manger au quotidien, donc je fais tout simplement ce que j'aime manger aussi.
Donc t'aimes manger, enfin tu dis que tu fais ce que t'aimes manger, t'aimes bien twister les produits africains avec d'autres influences. Je regardais ce que t'allais faire, enfin j'ai vu quelques exemples de plats que t'allais faire, comme du stick rice au gombo et caviar, ou de la sole cuite en feuilles de bananier, ou encore du bœuf sauce mafé et tamarin. Et je disais aussi que t'avais un animal totem, enfin ta cuisine elle est un peu à l'image de ton animal totem, j'ai l'impression. C'est le héron qui vole dans différents continents et se nourrit de ce qu'il trouve. Toi c'est pareil, tu pioches un petit peu partout dans différentes influences pour faire ta cuisine.
Ouais, totalement, c'est un peu l'esprit de cet animal totem qu'on peut avoir, qui est le héron, donc qu'on retrouve aussi bien en France qu'en Afrique, qu'au Japon, et qui migre en fait entre ces continents. C'est pas forcément les mêmes populations, mais il migre entre ces continents et il se nourrit de ce qu'il y trouve à chaque fois. Donc moi, mon esprit culinaire, en fait, il se retrouve entre ces trois continents, on va dire. Et vraiment, j'ai envie de piocher chaque chose qui me plaît sur ces trois territoires et constituer ma cuisine comme ça. Donc moi, c'est aussi tout part de la curiosité, mais c'est juste des influences que je mélange plus ou moins. Ça dépend du jour, ça dépend du moment aussi. Ça dépend vraiment de tous les instants et de ce qui m'anime. Mais c'est des choses que j'aime faire professionnellement, mais c'est aussi des plats que je mangeais pour la cuisine africaine. C'est la cuisine que j'ai mangée mes zéros jusqu'à ce que je quitte le domicile familial, quoi. Ma mère faisait cuisine africaine à la maison en Afrique de l'Ouest, puisqu'on est originaire du Mali. Et en sortant de chez moi, je mange la cuisine japonaise, des plats typiques français, et puis plus largement toutes les influences du monde. Donc c'est vraiment moi ce que je suis, on va dire, et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien.
Et à partir de quel moment t'as commencé à faire des expériences comme ça de cuisine pour trouver ton propre style culinaire, te dire, ah bah tiens, je vais faire un plat inspiré de mon enfance avec des touches d'ailleurs. C'est assez récent.
Bah, j'ai commencé à travailler comme ça, à faire des choses qui me ressemblaient un peu plus. Oui, c'est assez récent quand même. J'ai 27 ans, ça fait pas, ça fait quand même jeune, on va dire. Il y en a beaucoup qui sont encore loin d'avoir trouvé leur identité à ce moment-là, mais on part déjà d'un principe où il faut former des bases solides avant de pouvoir créer des choses nouvelles. Donc, il m'a fallu constituer ces bases et on va dire à partir du moment où j'ai vraiment commencé à voir ces bases qui étaient solides et qui me permettaient d'avoir assez de cordes à mon arc, on va dire, pour être créatif et pouvoir faire des choses nouvelles, je me commençais à créer avec des choses que j'appréciais. Je me suis dit, bah tiens, bah, le mafé que ma mère faisait, qu'est-ce que je peux faire avec moi, avec tout cet attirail technique que j'ai maintenant. Donc, si je le situerais, je dirais que ça fait aller 4 ans que je commence vraiment à m'amuser, à faire des choses que j'aime ou des choses qui m'inspirent avec un œil différent.
Est-ce que ça s'est développé plus avec Top Chef ou c'était aussi une espèce de plateforme d'expression bon, même si tu réponds à des épreuves, enfin, bien sûr que tu dois rentrer dans le cadre, mais est-ce que c'est aussi une façon d'explorer un peu ta propre identité culinaire ?
Bah, Top Chef, ça n'a pas eu d'influence sur mon identité, on va dire, culinaire, mais c'est vrai que c'était un terrain de jeu, c'était juste le terrain de jeu idéal, quoi. Donc on avait un thème qui était le même pour tous, ce qui peut apparaître comme une contrainte, mais non, c'est juste une manière de mettre tout le monde à jeu égal, on va dire, et chacun fait avec ses armes, mais avec un cadre qui est vraiment défini. Donc cette identité, pour moi, je l'avais avant d'arriver, et Top Chef, c'est juste le moyen de pousser un peu plus les curseurs au maximum et voir jusqu'où cette créativité et cette envie de faire des choses différemment pouvait m'amener. Et je pense que ça a plu des fois, d'autres fois ça a moins marché, mais c'est le jeu, moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est vraiment avant tout pour m'amuser et pousser un peu plus les curseurs.
Et c'est en tant que chef pour comment dire, dans tes précédentes expériences, parce que jusque là t'étais en poste au Mandarin, tu faisais pas ta cuisine, et est-ce que t'as eu des occasions de la tester sur les autres, bah, par Top Chef et aujourd'hui Edo, mais au final, t'as peu d'expérience quand t'es dans un... T'as peu d'expérience de tester ta propre cuisine quand t'es dans un restaurant, quand tu travailles pour les autres, quoi. Enfin...
Totalement. C'est au Mandarin, Oriental jouissait d'une grande liberté créative, on va dire. Mais c'est sûr que le chef, c'était Thierry Marx et c'était pas Maurice Sacco. Donc, arrivé un moment, je faisais mes plats, je les faisais déguster et lui faisait ses remarques et m'orientait par rapport à sa propre vision des choses. Donc, je créais des choses qui me plaisaient, mais qui devaient plaire aussi à Thierry Marx. Donc, forcément que quand j'arrive à Top Chef, j'ai une idée, j'ai une identité, mais j'ai pas pu l'exprimer, on va dire, à 100%. Donc, Top Chef, ça me permet déjà de pouvoir m'exprimer à 100% et de voir si ça fonctionne ou pas. Et par la suite, bah, dans mon restaurant, c'est quelque chose aussi que moi, je trouve génial. C'est que je vais pouvoir proposer ma cuisine, apprendre moi-même sur ma cuisine et mon identité en même temps que mes clients. Donc, on va en quelque sorte, on va tous grandir ensemble. Et pour peu qu'il y ait des clients qui suivent la progression, bah, là, ce qu'ils vont manger au jour d'ouverture sera différent de ce qu'ils vont manger dans un an et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vraiment une progression et j'espère une progression constante et régulière.
Et cette mixité culinaire, est-ce que c'est aussi une façon de changer la vision de la cuisine enfin, c'est réducteur de dire la cuisine africaine, mais est-ce que tu as envie de montrer qu'il peut y avoir, enfin, qu'on peut avoir un autre regard sur elle ?
Bah ouais, cette mixité, moi, c'était vraiment, je me suis toujours dit que si j'arrivais à un poste où j'avais justement une vraie influence et je pouvais faire la cuisine que j'aime, je mettrais toujours une cuisine africaine. Après, quand on dit africaine, bah, l'Afrique, c'est un énorme continent. Ça fait plus de 33 fois l'Europe, je crois. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, mais je trouvais ça dommage. J'aurais pu me concentrer sur l'Afrique de l'Ouest puisque c'est de là où je suis originaire et qu'on a une grosse différence entre l'Afrique de l'Ouest, centrale, la Corne ou autre. Mais je me suis dit, entre guillemets, il y a très peu d'ambassadeurs de cette cuisine africaine. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir faire un peu la cuisine de tous les pays et qu'un client qui vienne chez Mosuke puisse se dire, ah, j'ai goûté quelque chose qui venait du Cameroun, ah, ça vient du Niger et ainsi de suite. Et moi, je serais un peu comme un accès vers la cuisine africaine et par la suite, ils pourront aller dans des restaurants plus spécifiques, un restaurant éthiopien, un restaurant sénégalais et ainsi de suite. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir faire des plats de la cuisine noire dans son ensemble et entre guillemets servir d'ambassadeur, même si c'est flou, à l'Afrique dans sa globalité, quoi.
Ouais, servir d'ambassadeur d'ambassadeur et de montrer un autre regard sur cette cuisine, un regard aussi plus gastronomique qu'on n'a pas trop, et en même temps un regard complètement ouvert, parce que tu t'interdis rien et tu vas pas faire de la cuisine terroir.
C'est totalement ça. Moi, de base, je suis un peu contre tout ça, toute cette vision qui est un peu rigoureuse, qui a une seule manière de faire et c'est la bonne. Donc c'est sur quoi j'insiste aussi, c'est que la cuisine qu'on va y trouver, certes il y aura des influences qui seront africaines, japonaises ou françaises d'ailleurs, mais je pourrais jamais poser un plat et dire oui voilà ce mafé c'est comme ça qu'il doit être, c'est le mafé, parce que déjà non, non, il y a toujours quelqu'un qui le fera mieux que moi, et ma mère sera toujours meilleure que moi je suppose, je suis sûr que j'arriverai jamais à son niveau sur là-dessus, mais j'ai envie en tout cas de proposer une version qui m'est personnelle, et qui puisse avoir les marqueurs, on va dire, forts de la cuisine africaine dans sa globalité. Et qu'un client qui arrive et se dit avec des préjugés en se disant que la cuisine africaine, on peut l'imaginer grasse, et elle n'est pas forcément la plus instagrammable en soi, donc les visuels ne sont pas forcément les plus beaux, mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que les goûts et la puissance aromatique et l'amplitude qu'on peut retrouver dans la cuisine africaine, elle est énorme. Donc apporter tous ces goûts, ces parfums et cette amplitude, on va dire, avec un esthétisme qui est plus dans les codes de la gastronomie mondiale, bah ça pourrait permettre à cette cuisine de devenir, on va dire, entre guillemets, la cuisine asiatique de demain, quoi. Il y a eu un gros boom de la cuisine asiatique sur les années 2000. Maintenant, il y a eu une petite phase scandinave et moi, j'ai envie de croire que la prochaine à arriver, c'est la cuisine africaine.
Et ça me faisait penser, quand je lisais justement que tu allais faire de la cuisine africaine avec des influences nippones et françaises, ça me faisait penser à la cuisine Nikkei, un peu qui mixe Sud-Amérique, influence sud-américaine et japonaise. Enfin, c'est rigolo, je me dis, effectivement, il y a peut-être un nouveau courant qui est en train de naître.
J'espère. En tout cas, non, mais c'est marrant que tu m'en parles, parce que moi, à Royal Monceau, j'ai pu croiser le père de la cuisine Nikkei, donc Nobu m'a tué ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué de voir cette cuisine, moi qui étais déjà passionné du Japon à cette époque, mais me dire, ah mais ouais, ça se prête vachement bien au mélange, en fait, cette cuisine japonaise. Donc je pense qu'il y a toujours quelque chose aussi qui m'a marqué de cette rencontre avec Nobu et ce croisement justement entre le Japon et la cuisine chilienne. Et me dire, ouais, ça marche super bien avec ces influences d'Amérique du Sud. Donc, voilà. C'est-à-dire, c'est quelque part dans ma tête et ça rejaillit une dizaine d'années plus tard, quoi.
Ouais, puis c'est aussi toi, dans le sens où tes parents sont nés en Afrique. Toi, t'es né en France, t'as grandi ici, t'as appris la cuisine classique française et en même temps, t'es passionné de Japon.
C'est ça, ouais. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le voir, parce que des fois, quand je l'explique, on peut dire oui, c'est un peu gadget ou essayer de faire quelque chose à la mode, alors que la mode, je m'en fous complet, quoi. Moi, je veux faire quelque chose qui est durable et quelque chose qui puisse durer dans le temps. Mais oui, c'est juste la cuisine, en fait, d'un Français, car je suis né et grandi en France, d'origine africaine, malienne plus précisément, mais d'origine africaine, passionné par le Japon. Et quand je le dis comme ça, tout de suite, oui. C'est juste logique, quoi. C'est juste une cuisine, en fait, qui me ressemble très personnellement. Et c'est quelque chose qui, quand je propose cette cuisine, en fait, c'est juste une extension, en fait, de ma personne et de ma personnalité. Et c'est une association de choses que j'aime, simplement.
Et le Japon, c'est par les mangas t'es passionné.
Gros fan de manga, j'ai commencé par Dragon Ball Z, que je regarde toujours 20 ans plus tard. Je regarde toujours, mais bon, ils lâchent pas l'affaire, donc je lâcherai pas avant eux. Et plein d'autres mangas, des Nicky Larson, Conan le Barbare, et puis en fait, dans les mangas, ils passent leur temps à manger. Donc, au bout d'un moment, on a envie de goûter les mêmes choses qu'eux. Et petit à petit, ça c'est comme ça. On goûte, c'est super bon. Et donc, on cherche toujours plus. Et vraiment, moi, ça commençait par les mangas. J'ai été chercher après la culture, des choses beaucoup plus... qui avaient plus attrait à la vie de tous les jours, en fait, chez les Japonais. Et puis, je trouvais beaucoup de choses qui me plaisaient. Des ponts communs qu'on peut trouver avec l'Afrique. Par exemple, le respect des anciens qu'on trouve dans les cultures japonaises aussi. La croyance aux esprits, des choses dans le Shinto. Et tout. Et en fait, c'est toute une culture et le pays dans sa globalité qui m'a plu, en fait. Donc, c'est parti de quelque chose d'un manga. Et ensuite, ça a été dans la culture japonaise. Et par mon métier, ça s'est vachement penché sur la nourriture après, quoi.
Et d'ailleurs, ton restaurant, tu l'appelles Mosuke. Donc mot pour toi, pour Mori. Et Suke, c'est en hommage à l'unique samouraï africain du Japon, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est en hommage à Yosuke, donc l'unique samouraï noir qui existe au Japon et le premier samouraï étranger aussi, donc qu'il soit noir ou blanc d'ailleurs. Le premier non japonais. Mais c'était vraiment une très belle histoire. Moi, j'avais déjà pensé à cette identité pour ma cuisine, mais je suis tombé un peu par hasard sur Internet, sur cette histoire. Je me suis dit, bah, ouais, c'est génial, ça colle parfaitement à ce que je vais faire. Donc, puis je me suis documenté un peu, j'ai lu le livre, et puis bah, son histoire, elle est triste, mais en même temps, elle est géniale, quoi. Donc, c'est vraiment cet Africain qui s'est totalement acclimaté au Japon et qui a fini par monter toutes les castes sociales jusqu'à arriver au rang de samouraï qui était un des plus hauts à l'époque. Donc, c'est l'histoire du Japon qui se formatait à l'Afrique ou inversement.
Bon, on va embrayer sur le sujet du moment. Non, le sujet Top Chef. T'as été un des candidats emblématiques de la dernière saison. Je crois que tu t'es inscrit. C'est toi qui as voulu participer. Tu t'es inscrit à l'émission, hein.
Ouais, Top Chef, ça devient de plus en plus rare, mais moi, je me suis inscrit.
C'est vrai que souvent, j'entends dire, ah, on m'a chassé, ou alors ils vont dans les grandes brigades demander s'il n'y a pas des candidats potentiels. Et toi, tu t'es inscrit.
Ouais, moi, je me suis inscrit. D'ailleurs, je me suis inscrit dans un mauvais timing. C'est entre deux saisons. Pour moi, c'était. Le dossier était parti, quoi.
L'année dernière ou...
Ouais, je crois, ouais, entre les deux, en fait. Et ils m'ont recontacté, donc je ne m'attendais plus du tout. Voire pas du tout. Et j'ai passé les castings et ça s'est très bien passé. Mais vraiment, quand je me suis inscrit, j'étais en train de travailler sur le projet du restaurant et je me suis dit, Top Chef, on va pas se voiler la face, c'est vraiment un tremplin dans tous les sens du terme, tant pour les recherches, les démarches administratives, pour les banques, pour trouver un prêt, que d'un point de vue médiatique et autres, on gagne énormément de temps. Et je me suis inscrit, je me suis dit, avec le restaurant, ça peut être génial. J'ai été pris par chance, donc c'est cool. Et une fois que j'étais inscrit, je me suis dit, c'est quand même dommage de le faire juste parce que c'est un tremplin, donc fais-le à fond et essaie de t'amuser. Donc c'est dans cet esprit où j'y étais.
Et c'est pas... T'en avais parlé un peu avec Thierry Marx parce que tu bossais donc avec lui, il t'avait donné des conseils ou t'as pu en discuter avant ?
J'en ai discuté avec lui, bien sûr, avant de me lancer. Et lui m'a dit, honnêtement, en cuisine, fais ce que tu fais. je vais pas t'apprendre à cuisiner maintenant en un mois ou quoi. Jusqu'ici, ce que tu fais, c'est très bien. Donc, garde ton identité et amuse-toi. Et par contre, il m'a dit, ouais, c'est de la télé. Donc, sois prudent. Ne te comporte pas comme un con. Bon, ça va. Après, il m'a dit, je m'inquiète pas trop pour toi là-dessus. Reste toi-même, quoi, tout simplement. Honnêtement, c'était des conseils, franchement, très simples. Mais ça fait toujours du bien de les entendre, quoi. C'était vraiment du basique, classique. Il voulait pas trop m'influencer avant de rentrer parce que lui connaît que trop bien l'émission. Donc, il est resté basique et m'a dit, amuse-toi, reste toi-même. Bon, sois pas négatif, mais c'est clairement pas dans ma personnalité, on va dire. Et bonne chance, quoi.
Et qu'est-ce que t'en retiens de cette émission?
Cette émission, déjà, j'en retiens, moi, une belle expérience humaine parce que, entre candidats, on a une super entente. Pour la plupart, mais mais bon, voilà.
Ouais, tu t'es trouvé un petit crew de copains cuisiniers. Enfin, cette année, c'est vrai que j'ai interviewé aussi Adrien. Avant, je connais Gianmarco. Enfin, j'ai l'impression que vous avez été très fusionnel, un peu.
Ouais, vraiment, c'était une bande de potes, quoi. Donc c'était juste super humainement parlant. Et puis pour la plupart, on est encore tous en contact, on se voit régulièrement. Encore plus avec ceux de mon équipe Violette à l'époque. Donc que ce soit Gianmarco, Adrien ou Justine. Et c'est vraiment devenu des amis. Donc ça, c'est génial. Et puis après, professionnellement parlant, par contre, ça m'a apporté beaucoup sur la vision et sur la construction d'un plat, en fait. Donc quand on construit un plat, on pose, on cherche à ce que ça soit joli, en ayant tous les éléments qui soient bons, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est... Normalement, ça doit être bon. Mais on ne pense pas forcément à la proportion de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, à force de dégustation avec ces grands chefs et qui s'enchaînent à un rythme effréné, on voit qu'il y a des marqueurs communs. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'émission, je réfléchissais beaucoup plus quand je mettais un point, par exemple, d'un condiment citron. Je me disais, un petit, un gros point, mais ça va balancer tout l'équilibre de mon assiette. Et c'est vraiment sur ce point-là où je pense que j'ai peut-être gagné 3, 4, voire 5 ans dans cette réflexion finale du plat, en fait. Vraiment réussir à se transposer par rapport au client et se dire, ok, j'ai fait une belle assiette, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que l'équilibre des goûts y est par rapport aux éléments présents. Je sais pas si c'est clair, mais...
Si, si, ouais. Ouais, ouais, de, que ce soit hyper équilibré et d'être confronté comme ça à ces grands chefs, parce que c'est vrai qu'il y a les chefs du jury, mais il y a aussi tous les chefs qui jugent à chaque épreuve, et ça, c'est hyper précieux.
Bah, c'est vraiment précieux, parce qu'on le voit pas à la télé. À la télé, on voit la dégustation dure peut-être une minute, mais en réalité, il passe pratiquement 20 minutes sur chaque assiette. Donc en 20 minutes, on en entend des choses sur notre assiette et des axes de progression qu'il nous donne, et beaucoup de choses aussi de retour, et pas que sur nos assiettes, sur les assiettes des autres aussi. Donc on les voit aussi, ces dégustations. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose de commun en fait chez tous ces grands chefs dans leur manière de lire une assiette. Et c'était vraiment beau, et je me souviens de dégustations qui étaient vraiment des dégustations. Je me suis dit, ouais, c'est génial. Par exemple, une dégustation d'Alexandre Mazia où c'était totalement fou la manière dont il lisait l'assiette, quoi. Et c'était vraiment, je me suis dit, bah, ok, d'accord. Voilà, lui, il est tout là-bas, nous, on est encore tout en bas. On a plein de choses à passer, mais sa manière de lire l'assiette, même des choses qu'on n'avait pas annoncées, bah, lui, il les décryptait et les lisait. Et puis, il y avait un jugement qui était très limite détaché, parce qu'il ne jugeait pas en fait, il observait et il faisait ses remarques comme ça, et c'était vraiment fou.
Dans la lecture un peu plus que dans la que dans le jugement.
Il était plus dans le j'aime pas, c'était vraiment une analyse, et décortiquait tout le plat et il ciblait vraiment très très juste, quoi.
Et le fait d'avoir eu cette équipe là très très liée, très forte, est-ce que ça vous a enlevé le côté concours? Est-ce que vous étiez moins dans cet état d'esprit de gagner, parce que bon, faut pas l'oublier que c'est vrai que c'est un concours et l'idée c'est d'aller le plus loin possible, mais est-ce que ça
atténuait la notion de concours?
Ouais.
Je dirais pas ça, non, parce que on était très il y a une bonne ambiance et tout, mais on était tous conscients que c'est un concours, et il y en avait qui avaient plus soin de victoire que d'autres, donc c'est les plus compétitifs que moi je dirais qui ont été le plus loin au final, parce que moi, bah, par exemple, je croise beaucoup de gens qui me disent oui, t'aurais le talent pour gagner et tout, je leur dis oui, c'est vrai, mais j'avais pas cette fin de victoire autant que ceux qui ont été loin, en fait. Moi, j'étais là pour m'amuser. Et c'est peut-être ce qui m'a fait défaut à des moments décisifs, en fait. J'étais bon que dos au mur, où je donnais vraiment le maximum parce que je voulais pas sortir. Mais avant, je m'amusais. Et je pense qu'il y avait toujours cette compétitivité. Et c'est ce qui fait justement que les finalistes, que ce soit Adrien ou David, aient été aussi loin, parce que je pense que si on prend l'épisode 1, c'était déjà eux qui avaient le plus faim de gagner, quoi. Donc, au-delà du talent qui est indéniable, il y avait vraiment cette fin de victoire et cette envie d'aller au bout, quoi.
C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que vous avez quand même à partir du milieu, il y a, tu vois, un niveau quand même assez homogène, dans le sens où vous pourriez tous aller en finale. Enfin, vous auriez tous le niveau d'aller en finale. Alors peut-être qu'effectivement, ça se joue sur l'envie de gagner plus forte que les autres.
C'est vraiment, ouais, c'est comme pour les compétitions sportives. Hein, il y a les disparités, on va dire, les écarts sont de moins en moins grands au fur et à mesure qu'on avance, mais la différence, c'est vraiment le mental. Donc, parce qu'il y a la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent aussi. Il y a une pression. Bah, si on prend la pression, certains c'est positif, d'autres c'est négatif, d'autres où justement, moi ça me glisse dessus, mais c'est pas forcément bien tout le temps. Parce qu'il y a des moments où il faut se la mettre, la pression. Mais c'est vraiment, il y a une belle partie de mental aussi.
Tu regardais quand t'étais petit, Top Chef?
Ouais, je suis un peu de cette génération Top Chef. Je crois que ma première année où j'ai commencé l'hôtellerie-restauration, c'est la première année de diffusion de Top Chef. Donc, je suis un peu de cette génération qui a grandi en fait avec Top Chef. Donc, j'ai pas suivi toutes les saisons parce que le mercredi soir, souvent on travaille. Mais j'en ai suivi beaucoup, et les premières et puis certaines aussi. Mais j'ai un peu grandi avec ce programme d'un côté aussi.
Enfin, c'était un peu un rêve aussi d'y participer, hein, un rêve de jeune homme qui s'est formé à la restauration avec cette image des Top Chefs.
Bah, bizarrement, non, pas spécialement, parce que moi, ce qui me faisait rêver, c'était plus les chefs un peu savants fous enfermés dans leur cuisine et qui développent des choses folles, mais pas forcément le côté Top Chef. Mais j'aimais bien parce qu'on pouvait voir des belles prouesses techniques dans Top Chef, et justement, les conditions étaient favorables à la créativité. Donc, c'est plus ce côté-là que moi j'ai toujours apprécié dans Top Chef, mais je me suis jamais dit je veux participer à Top Chef. Ça s'est vraiment décidé à mon inscription. Au moment où j'ai décidé de m'inscrire, c'est le moment où je me suis dit ouais, je veux faire Top Chef. Mais avant, j'avais jamais eu cette envie, parce que je suis vraiment pas concours, j'ai jamais fait de concours de cuisine de ma vie. C'est pas quelque chose qui me plaît, parce que je trouvais ça trop restrictif. Mais justement, la nuance était dans Top Chef, où on avait un thème, mais on nous laissait beaucoup de créativité derrière, donc c'était peut-être le seul concours auquel j'aurais bien voulu participer.
C'est la folie cette année, la médiatisation qu'il y a eu autour de Top Chef. Je ne sais pas si elle est fait confinement en même temps, mais ça a été complètement dingue, j'ai l'impression.
Ouais, la médiatisation a été totalement... c'était totalement ouf. Franchement, nous, on ne s'attendait pas autant. Après, c'est sûr que le confinement a beaucoup joué parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées enfermées et qui ne regardaient pas Top Chef et qui s'y sont mis et qui se sont pris au jeu. Donc, c'est génial, nous, tous ces gens-là. Et puis, la saison, on nous dit aussi que de manière intrinsèque, sans le confinement, elle était aussi qualitative. Donc, ça fait plaisir parce que nous, on s'est amusés pendant cette saison et ça s'est ressenti à l'écran. Donc, c'est totalement fou, cette médiatisation. Et puis, jusqu'ici, ça apporte des bonnes choses. Donc, on peut que être content.
Tu le vis bien ?
Moi, je le vis assez bien, oui. Ça va, moi, je le vis assez bien. Et les gens sont positifs. Donc, tant qu'on m'interpelle pas pour me jeter des cailloux, ça me va.
On te reconnaît dans la rue ?
Ouais, bon, avec mon physique, moi, c'est un peu plus compliqué de me cacher dans la rue. Donc, ouais, on me reconnaît un peu dans la rue, mais c'est vraiment, j'ai toujours des mots super gentils. Les gens sont pleins de compliments et tout, donc ça peut que faire plaisir.
C'est dur, justement, d'être jugé à la télé, d'être jugé dans le... Enfin, déjà, c'est un métier où on est vachement jugé tout le temps. Mais là, en plus, tu vois, avec le côté médiatisation, il y a des gens qui te jugent sans te connaître et qui jugent tes assiettes sans les avoir mangées. C'est dur.
C'est sûr que c'est un jeu. Après, le problème, c'est que on le fait, on prend un risque, mais il faut le prendre en connaissance de cause. Forcément que quand on s'expose comme ça, ça peut être très positif, mais ça peut aussi être à double tranchant. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que si j'avais pas envie de ça, je n'avais qu'à pas m'inscrire, quoi. Tout simplement. Donc oui, on est jugé, mais c'est le jeu aussi, quoi. On peut pas juste prendre les bons côtés et puis se plaindre des mauvais.
Et c'est dur, toi. Enfin, est-ce que tu le vis bien, le jugement de la cuisine, des gens qui mangent tes assiettes? Bon, t'as peut-être pas encore eu beaucoup ça parce que tu vas ouvrir ton restaurant et qu'il est pas encore ouvert. Mais peut-être chez Edo, tu commences à le voir, les retours, tout ça, tu le vis bien?
Les retours, moi, je les vis bien. Après, forcément, c'est comme, je pense, tout le monde, le retour constructif, bien sûr, je le prends avec plaisir. Quand on me dit oui, j'aime pas, honnêtement, non, ça, non, on peut pas me dire oui, juste j'aime pas. Pour moi, c'est pas un retour qui est qualitatif. J'aime pas, oui, mais pourquoi tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le plat pour qu'il ne te plaise pas? Et là, à partir de là, ça va m'ouvrir des pistes. Après, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais à partir de ce moment-là, le retour pour moi, il est constructif. Mais si c'est juste j'aime pas, non, ça me va pas du tout, moi non plus.
Bon, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que je fais une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Donc, ton âge
27.
Ton plat signature?
Plat signature, je pense qu'il faudra qu'on en reparle dans 2-3 ans parce que pour l'instant, je suis un bébé chef, donc j'ai pas de plat signature.
Ton plat préféré à manger?
Plat préféré à manger? Faut choisir une personne préférée pour me faire à manger?
Peux choisir une, si tu...
Du coup, c'est maman. Tout ce qu'elle me fait, c'est bon.
Le chef que t'admires le plus?
Le chef... Tu peux en mettre plusieurs?
Oui, tu peux en mettre plusieurs. Allez.
Chefs. J'ai le chef Thierry Marx déjà qui prend une grosse place dans ma carrière, on va dire. Donc moi, je l'admire tant par sa cuisine, mais aussi par ses engagements sociétaux ou en dehors de la cuisine, vraiment tout ce qu'il fait. Donc lui, c'est vraiment une personne qui tant est admiré tant par sa cuisine que par la personne qu'il incarne et qu'il est réellement au quotidien. Ensuite, pour les cuisiniers, il y a Alexandre Mazia que j'ai cité, dont je trouve la cuisine totalement folle et qui a des marqueurs dans sa cuisine qui sont des choses qui me parlent moi totalement. Donc, et Pascal Barbeau pour ce qu'il a fait, petite révolution qu'il a lancée lui de Paris dans son restaurant, dans la gastronomie mondiale. Et après, si j'allais à l'international, j'irais voir René Redzepi, Albert Adria, vraiment tous ces chefs qui poussent la créativité à un autre niveau et qui ont chacun de leur côté donné un nouvel élan à la cuisine et à la gastronomie mondiale, on va dire, de là où ils étaient.
Ton ingrédient préféré?
Ingrédient préféré, j'irais plus une saveur, c'est l'acidité. J'adore tout ce qui est acide, que ce soit du citron, vinaigre ou autre, mais j'adore l'acidité.
Ton ingrédient détesté?
Détesté... Alors là, parce qu'il y a, pour moi, il n'y a rien de mauvais si c'est bien préparé, donc c'est compliqué d'avoir un ingrédient que je déteste. Tout ce qui est mal préparé.
Ton ustensile fétiche?
Ustensile fétiche. Un couteau, mais un couteau d'office. Pas un Santoku.
Pas un couteau japonais.
Non, un couteau d'office parce qu'on fait plein de choses avec.
Ton dernier meilleur repas?
Mon dernier meilleur repas. David Toutain, c'était super bon.
Avant le confinement, donc.
Avant le confinement, ouais. Après confinement... Ah si, on a fait Le Prince Noir à Bordeaux. C'était l'ancien chef d'Adrien, justement. Donc, Vivien Durand, si je ne dis pas de bêtises.
C'était son chef ?
Ouais, c'était son ancien chef. D'accord. Donc, super repas. Franchement, il nous a fait des cuissons au barbecue sur plein de choses et tout. Moi, j'adore le barbecue, donc j'étais déjà un peu parti pris, mais super repas.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ?
Meilleur compliment... J'ai eu droit à un plat intelligent de la part de Laurent Petit pendant une épreuve Top Chef. Et pour moi, l'intelligence en cuisine, c'est peut-être une des plus belles qualités qu'on puisse avoir dans un plat. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on est tous sapiosexuels en cuisine, non, mais c'est juste que l'intelligence dans un plat, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaît, c'est quelque chose que je recherche au quotidien.
Ça t'a fait plaisir, donc.
Ouais, ça m'a fait très plaisir.
Et la pire critique ?
Pire critique, brouillon.
C'était dans Top Chef aussi ?
Aussi. En plus, c'est mon plat de repêchage sur la première épreuve, et brouillon, ça me... Moi qui essaie de réfléchir et de penser mes plats, quand on me dit brouillon, ça me... ça me fait mal.
Bon, l'aller-retour est terminé. Quand tu étais petit, je crois que tu n'avais pas le droit de rentrer dans la cuisine, hein, c'est ça ? C'était le territoire gardé de ta maman ?
Ouais, quand j'étais petit, la cuisine, c'était vraiment chasse gardée. Et puis, de toute façon, on faisait bien de me surveiller quand je rentrais, parce que je rentrais juste pour prendre des trucs à manger avant que ça soit prêt. Donc, ouais, c'était son territoire. Et moi, je me souviens de ces moments avec beaucoup de tendresse, au final, parce que c'était son territoire. Et je savais que quand j'allais dans la cuisine, je trouvais quelque chose à manger, quoi.
T'aimais manger, ouais, tu cuisinais pas, du coup tu cuisinais pas vraiment.
Non, j'aimais beaucoup manger, je cuisinais pas du tout, honnêtement. La cuisine, moi, pour moi, c'est arrivé assez tardivement au final, donc moi, la nourriture, on va dire, en globalité, c'était vraiment autour de la table, des moments d'échange. Nous, dans la culture, dans la culture de mes parents et tout, on mange sur un plat unique à plusieurs, donc du coup, c'était vraiment des moments avec mes frères et sœurs, on mangeait ensemble, quoi, donc c'est le moment où tout le monde se retrouve, et vraiment un moment de partage. Donc j'ai des moments à la table, mais des moments de cuisine, non, du tout, j'ai pas le souvenir du cuisinier avec sa mamie ou sa maman qui faisait les gâteaux le dimanche. Non, ce souvenir, il n'existe pas pour moi, mais c'est plus des souvenirs à la table.
La première fois que tu as touché des couteaux, c'était à l'école.
Ouais, la première fois que j'ai touché des couteaux, c'était à l'école, et puis encore plus fou parce que y a des ingrédients que moi, je n'avais jamais travaillé et qui sont totalement basiques, on va dire, mais un artichaut à fenouil, je l'ai appris à l'école hôtelière. J'avais jamais mangé un fenouil de ma vie parce que à la maison, je mangeais ce qui se mangeait en Afrique de l'Ouest et autres. Donc, c'était une découverte sous tous les sens pour moi, et c'était super, quoi.
Et c'était un choix, hein, d'aller à l'école hôtelière. C'est grâce à la télé que que tu t'es orienté dans la cuisine.
Ouais, c'est vraiment, moi, la télé qui m'a amené dans cet univers. Donc, rien qui me prédestinait à ce corps de métier. Et en fait, je me suis rendu compte que dimanche, je regardais la télé, les reportages et autres, les magazines, et je bloquais toujours sur les parties sur l'hôtellerie. Et sur les palaces plus particulièrement, et encore plus sur les parties cuisine. Donc quand je suis arrivé en troisième, on m'a dit « Bon Maury, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je me suis dit « Bon, je sais pas. Est-ce que tu vas aller en général ? Est-ce que tu veux te professionnaliser et autres ?» Et puis je me suis souvenu que j'aimais bien les documentaires et les reportages sur le monde de l'hôtellerie et particulièrement la cuisine. Donc je me suis lancé comme ça.
Donc t'es allé en lycée hôtelier ?
Ouais, j'ai fait lycée hôtelier, donc j'ai fait un BEP d'abord, et ensuite j'ai fait un bac pro en alternance.
Et en alternance, c'est là que t'es rentré dans les palaces ?
En alternance, donc non, la première alternance, j'ai fait dans un restaurant, Place du Marché Saint-Honoré. C'était sympa, on avait une belle clientèle. Et ensuite, sortie d'école, là, j'ai vraiment commencé dans les palaces, donc au Royal Monceau, puis le Shangri-La, pour finir au Mandarin Oriental.
Donc c'est toi qui a dit « c'est mon rêve, je veux aller dans les palaces, je veux travailler là-bas ». Et donc t'as réussi à trouver un apprentissage.
C'est ça, c'était vraiment, pour moi c'était vraiment un rêve et un objectif d'aller travailler dans les palaces. Donc une fois sorti de l'école, j'ai posé des CV de commis dans tous les palaces. Ceux qui cherchaient pas, je m'en foutais, voilà, c'est tout. Et donc par chance, mon CV a été retenu dans un des palaces, donc au Royal Monceau, et c'est comme ça que ça a commencé.
Et tu te souviens de tes débuts en cuisine ? C'était dur ou...
Ouais, mes débuts en cuisine, si, je m'en souviens, parce que j'avais cette envie de travailler dans les palaces et dans les cuisines, mais j'étais pas encore passionné par ce métier. Donc, on va dire, j'étais plutôt bon dans ce métier. Oui, ça allait. Je faisais mon travail, mes chefs étaient satisfaits, mais j'avais pas encore eu ce déclic qui fait qu'on passe d'un cuisinier au terme, au sens où c'est un travail, en fait, passer du travail, je viens, je fais mes heures, je fais mon boulot, je fais bien, je rentre à la maison, à passer vraiment à un chef ou à une vraie passion. Et ces déclics, je l'avais pas au début. Donc du coup, c'est sûr que c'était dur par rapport à d'autres personnes qui, eux, étaient réellement passionnées, donc beaucoup plus vigoureux, on va dire, au travail. Et ouais, l'apprentissage pas là, ça, ça a été formateur, mais au début, c'est sûr que ça a été un peu la course.
T'as pleuré ?
Ah non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Ouf, surtout, je le dis pas.
Ouais, parce qu'il y a des chefs qui le disent.
Hein. Non, bah non, franchement, non. J'ai pas pleuré, mais j'ai souvenir de service où... ouais, si j'avais eu 2 minutes pour aller pleurer, j'aurais été pleurer, mais j'avais pas ces 2 minutes. Je vais envoyer rapidement.
Et la passion, tu parlais de passion, que t'étais au début pas passionné. Elle est venue comment, la passion ?
Bah, cette passion, en fait, elle est venue petit à petit, vraiment. Sur ces premières années que j'ai fait au Royal Monceau, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un chef qui s'appelle Hans Zanner, qui lui venait en fait du Plaza. Donc il est arrivé avec toute une brigade de mecs qui bossaient que dans des 3 Macs, des 2 Macs et autres. Et moi, je sortais de l'école, donc. Et j'étais pas forcément passionné. Et ces mecs-là étaient vraiment très en place et vraiment très, très bien formés. Donc quand il est arrivé, il a fallu que je me mette au niveau de cette équipe. Donc ça a déjà nécessité de ma part un gros effort pour pouvoir rattraper des mecs qui bossaient dans du 2, 3 Macs depuis 2 ans, 3 ans. Donc j'ai dû cravacher pour rattraper mon retard. Et en fait, par la suite, quand j'ai rattrapé mon retard, le chef m'a donné de plus en plus de confiance. Et si je vais situer un déclic, c'est un moment où il nous demandait en fait à chacun son tour de créer des plats pour les mettre à la carte d'un menu qui durait la semaine. Et là, j'ai dû bosser pour créer mon premier plat, entre guillemets. Et donc, à ce moment-là, pour construire ce plat, j'ai dû aller chercher des connaissances. Donc, je me suis renseigné un peu sur les associations de saveurs. Il y a des choses que je voulais faire, d'autres que j'aimais moins, sur les textures. Et ce petit plat, en fait, ça m'a donné envie d'en savoir toujours plus, comme je suis très curieux de nature. Donc, j'ai été chercher plein de choses, plein de connaissances. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller... regarder ce que les chefs faisaient, les différents plats que les chefs faisaient, parce que jusqu'ici, je ne m'intéressais même pas aux chefs, quoi. J'étais plus intéressé par le foot, les mangas et plein d'autres activités qu'on a à 19-20 ans que la cuisine. Mais j'ai commencé à essayer de voir les chefs, les palaces, les étoiles, vraiment, et m'intéresser de plus en plus. Et en fait, la cuisine a pris de plus en plus de place, entre guillemets, dans ma vie. Et à bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, ouais, c'est devenu une passion et ça prend une place énorme dans notre vie, quoi.
Plus que le foot.
Ouais. Quand je dois faire le choix entre aller travailler et regarder un match de foot, du coup, je vais travailler.
Et il y a des chefs, donc, à cette époque-là, quand tu as commencé à t'intéresser à eux, qui t'ont passionné, enfin, qui te faisaient rêver.
À cette époque, ouais, c'était vraiment à l'époque où. Il y avait le renouveau qui était lancé par la scène un peu basque, espagnole et autres. On avait, par exemple, Ferran Adrià qui était en train de tout casser dans la cuisine mondiale, quoi. Et je regardais énormément parce qu'il y avait une créativité là-bas qui était totalement débridée. Et en même temps, il y avait le pendant en France, donc Thierry Marx. Donc, j'ai arrivé au bout, j'ai finalement bossé pour lui. Mais c'était un des chefs que je regardais le plus et que je me disais tout le temps, moi, si je dois bosser pour un chef à Paris, ça serait avec Thierry Marx. Donc, c'est vraiment un objectif pour moi d'aller travailler dans sa brigade plus tard. Et donc, c'était un des chefs qui m'influençait. Et puis après, je regardais aussi des plus classiques parce que c'était une époque où je devais construire mes bases aussi. Donc, je regardais ce qu'Aleno faisait, tout ce qu'il faisait dans l'écurie Ducasse parce que ça, il y en a un peu partout. Et j'essayais de voir vraiment les cuisines classiques chez Robuchon aussi. Et vraiment, je prenais plus de savoir autant sur les classiques que sur les créatifs qui, eux, revisitaient totalement la cuisine.
Ça représente quoi pour toi, la cuisine, aujourd'hui ?
Pour moi, la cuisine, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Émilie dira peut-être trop, mais, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais un épanouissement total, quoi. Donc, ça représente énormément de choses pour moi.
Et c'est aussi un moyen d'ascension sociale. Enfin, ça a été aussi pour toi, en tout cas.
Totalement. Moi, c'est ce que je dis régulièrement. C'est que la cuisine, c'est vraiment un des rares milieux où on peut avoir une ascension sociale qui est vraiment double. Parce que moi, j'ai pu passer de fils, entre guillemets. On connaît les particularités de la France, où c'est un des pays où c'est plus compliqué de passer de fils ouvrier à cadre. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, de mon père ouvrier à moi, passer cadre à seulement 25 ans dans un palace, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Et ensuite, de pouvoir avoir une ascension dans mon niveau de vie aussi, parce que quand on passe cadre, on a le salaire qui va avec. Donc oui, c'est vraiment un de ces métiers où le travail paye réellement et seule la compétence compte, quoi. On n'est pas en train de pistonner parce que tu es le fils d'eux ou une connaissance. C'est vraiment, il n'y a qu'un seul juge de paix, c'est la compétence, c'est le travail.
Ton talent.
Voilà, et le talent, et le talent par la suite.
Mais beaucoup de travail, beaucoup d'investissement.
Beaucoup,
aussi.
Beaucoup d'investissement et de travail.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent en regardant, en regardant la télé. Mais bon, t'es la preuve qu'on y arrive. T'as pas compté tes heures, j'imagine, depuis que t'as commencé.
Faut pas compter ses heures. Et c'est un métier où on voit énormément, justement, de profils où, on arrive à un point où nous, on va parler de notre créativité, construire des plats et autres. Mais c'est d'abord énormément de travail. Il y a du sacrifice aussi personnel parce que on rate beaucoup de femmes de famille, beaucoup d'événements dans sa vie. Mais si on se donne les moyens, c'est un métier qui nous le rend au centuple. Parce que quand je finis un plat et qu'on me dit que ce plat est bon, tout simplement, je suis content. Je suis content. C'est tout simple et ça nous apporte un plaisir. Ce plaisir est multiplié par le nombre de clients par jour. Donc cette joie, on va dire, ça nous apporte énormément de joie au quotidien. Mais il faut être conscient que c'est beaucoup de travail, des sacrifices. Et il faut avoir le mental pour tenir physiquement tout ce temps-là, quoi.
Et qu'est-ce qui guide ta cuisine et tes assiettes ?
Moi, ce qui guide ma cuisine et mes assiettes, c'est ma curiosité. Vraiment, je suis curieux de tout. Et j'ai toujours envie d'apprendre. Je considère que je suis jamais accompli, en fait. Donc, faut toujours que j'apprenne des nouvelles choses, que j'aille chercher le savoir où il est. Et dans ma cuisine, je pense que c'est quelque chose qui me définirait le plus. Parce que cette identité que je donne chez Mosuke, qui est entre l'Afrique, la France et le Japon, c'est vraiment pour moi le terrain de jeu idéal. Parce qu'en Afrique, je suis d'Afrique de l'Ouest, moi, donc d'origine. J'ai mangé énormément l'Afrique centrale parce que j'ai beaucoup d'amis qui y sont. Mais par exemple, la cuisine de la Corne de l'Afrique, c'est une cuisine que je ne connais absolument pas et que j'ai totalement envie de connaître et que je veux apprendre à connaître, en fait. Et donc, ça aiguise encore plus ma curiosité. Et il y a tout un tas de techniques que je sais qui existent sur le continent africain que je ne connais pas encore et que je dois apprendre. Donc, vraiment, c'est un apprentissage perpétuel, en fait.
Ouais, comme tu disais tout à l'heure, que dans les clients qui reviendront dans un an, la cuisine aura encore évolué.
C'est ça.
Tu vas apprendre encore plein de choses.
Je vais apprendre plein de choses et je compte bien apprendre le plus possible et le plus longtemps possible, surtout.
Est-ce que tu crées facilement des plats ?
Ouais, je crée facilement des plats, mais c'est pas toujours bon. Non, mais moi j'ai une manière de créer, en fait, qui s'approche un peu, entre guillemets, d'une méthode qui peut se paraître scientifique, mais en fait, je pense qu'en science, il y a un procédé simple qui est, quand on découvre quelque chose, on montre, puis on démontre, et ensuite, on rationalise. Donc, d'abord, quand moi, je construis, je vais prendre, par exemple, un aliment A, que je vais décliner sous plusieurs manières de, par exemple, si je trouve une technique de fumage sur un poisson, ce poisson, je vais me dire, OK, j'ai un poisson, mais pour faire un poisson fumé, d'abord, on le passe au sel et ensuite on le fume. Donc ce poisson, je vais partir, je sais pas, on prend un saumon, je vais dire je le sale. Comment je le sale ? Est-ce que je mets de la fleur de sel ? Est-ce que je le mets en saumure ? Une saumure à 10, 20, 30%, 10, 20, 30 minutes. Et en fait, je croise tous ces paramètres. Une fois que je trouve le bon paramètre, là, ensuite, il y a le fumage. Le fumage, je fais quoi ? Je fais un fumage à sec, à froid, à chaud. J'utilise du thym, j'utilise du bois de cerisier, j'utilise du bois d'hêtre, je sais pas. Donc, je vais tenter toutes ces choses-là. Et en fait, au fur et à mesure, je vais trouver la bonne formule. Mais une fois que, là, du coup, on est dans le montrer, une fois que ça marche, on démontre. Et une fois qu'on sait que ça marche, on consolide. Donc, du coup, on consolide et on rationalise. Donc, on fait des process. Et en cas de ces process, donc la création peut être longue. Des fois, ça peut être très instinctif sur un bout de poste. Mais moi, c'est une manière de travailler que j'adore et c'est vraiment la recherche et du développement au final.
Tu fais beaucoup d'expériences, en fait.
J'ai énormément d'expériences. C'est pour ça que je crée beaucoup, mais c'est pas toujours bon parce que c'est une expérience. Je vais tester 10 façons. Il y en a peut-être qu'une seule qui sera réellement viable et bonne. Mais les no-fautes sont pas perdues parce qu'elles peuvent fonctionner sur un autre aliment, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, c'est pas toujours bon, mais celui qui arrive dans l'assiette du client, c'est la bonne version.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ?
Alors, je me suis senti chef pour la première fois peut-être quand j'ai eu ma promotion de sous-chef, en fait. Jusqu'ici, je me sentais pas légitime pour être chef tant qu'on m'en donnait pas le titre. Et en fait, en cuisine, on a un fonctionnement qui est un peu inverse, parce que généralement, quand on donne le titre, c'est que la personne tient déjà le rôle, en fait. C'est qu'elle a déjà acquis la compétence. Mais moi, je me sentais pas légitime pour me sentir chef. Et à partir du moment où on m'a jugé sous-chef et que, entre guillemets, on m'a donné les clés du camion, on m'a dit, bah voilà, t'es au pass ce soir, bah, tout ce qui sort, c'est toi le responsable. Bah là, je vais, ok, d'accord. Ok, bon, bah, Maury, là, il va falloir être sérieux et très sérieux, parce que s'il y a une faute, c'est toi.
Et si on te demande de te présenter, tu te dis chef, tu te dis cuisinier, tu te dis...
Alors, comme demande de me présenter, moi, je me dis cuisinier, parce que je suis... J'aime le métier de cuisinier, en fait, parce que chef, au final, c'est assez flou, et chef, c'est, pour moi, c'est plus la notion d'encadrement et de management, mais cuisinier, c'est toute la partie, entre guillemets, c'est le côté artisan du métier, quoi. C'est le côté où on a la transformation de la matière, le contact avec le client et autres. Donc, moi, je me présente comme cuisinier à chaque fois et non pas comme chef. Et puis après, bon, bah, qu'on me demande quel genre de cuisinier, bah, je suis chef, mais de mon propre restaurant.
Dans une interview, tu as dit que moi aussi, en tant qu'Africain en France, je peux être cuisinier, moi aussi, je peux être un grand chef. Et c'est vrai que tu as un rôle de modèle aujourd'hui. Tu t'en rends compte et tu l'assumes?
Bah, moi, c'est un rôle que j'ai pas cherché à avoir. J'ai surtout cherché à être moi-même, comme toujours. et il s'avère que ça a inspiré des personnes qui sont reconnues et qui ont vu en moi, en fait. C'est généralement ce genre de choses. C'est pas à nous-mêmes de dire oui, je suis inspirant et je veux être inspirant, parce que généralement, ça marche pas comme ça. Mais ouais, c'est arrivé comme ça. Moi, c'est quelque chose que, c'est pas que je l'assume, mais je le prends avec honneur. Et surtout, je sais pas si je suis à la hauteur de cette tâche, parce que... Je suis juste moi, quoi, et pour moi, rien n'a changé, quoi. Mais si en faisant Top Chef, j'ai pu inspirer ne serait-ce qu'un seul jeune noir qui s'est dit « Moi aussi, je peux être chef comme Maury et je vais être chef comme Maury », c'est que du bonheur et c'est mission accomplie sans avoir cherché à l'accomplir, mais c'est, pour moi, c'est que du bonheur. Et puis, j'ai un jeune noir, mais ça peut être n'importe quelle personne qui était assise devant sa télé qui s'est dit « Ah, Maury me donne vraiment envie de me lancer dans la cuisine ». Ouais, carrément, c'est avec plaisir que je prends ce rôle et je sais pas si je suis à la hauteur, mais ça fait plaisir.
Tu te vois où dans 10 ans ?
Dans 10 ans, où est-ce que je me vois ? Bonne question. Parce que on me posait la question il y a 2 mois, ma réponse aurait été différente. Il y a 6 mois, ça aurait été différent. Mais dans 10 ans...
Aujourd'hui, 24 juillet, tu te vois où dans 10 ans ?
24 juillet 2040, je me vois toujours à Paris parce que je suis parisien de cœur et de sang. J'ai toujours vécu qu'à Paris, donc je me vois toujours à Paris. Peut-être dans mon restaurant, avec 1 voire 2 étoiles. Pourquoi pas, si on est ambitieux. ça coûte rien d'être ambitieux. Et puis toujours avec le sourire et la bonne humeur.
Les 3 étoiles, non.
Les trois étoiles, bon, disons, je veux bien être ambitieux, mais il faut être réaliste quand même. Non, on n'y est pas encore.
Il y a peu de chefs qui avouent vraiment chercher les étoiles et je trouve ça à la fois touchant, en fait. Enfin, j'avais interviewé un chef japonais qui venait d'avoir une étoile Michelin il y a quelques années et je lui disais, vous êtes content, les chefs sont généralement contents d'avoir une étoile Michelin. Et là, il me dit, non, moi j'en veux 3. J'avais trouvé ça génial, tu vois, de le revendiquer en plus, de dire, moi je veux 3 étoiles, là je suis qu'au début du parcours. Donc...
Non, moi, 1, ça me va. 1, je serais content, hein, je fais la roue, il n'y a pas de souci. Et j'en ferai 2 pour la deuxième.
On arrive à la fin. Autre tradition, c'est que je demande une recette, mais facile à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on fait si on veut cuisiner comme toi, Maury, à la maison ?
À la maison, alors si on veut cuisiner comme moi, facile, moi je ferais un petit riz sauté, un riz frit. Moi j'adore me faire des fried rice, c'est des plats qui sont rapides à faire. Donc on cuit son riz comme on a l'habitude, hein. Si on l'aime bien cuit, on cuit bien. Si on l'aime juste cuit, on cuit juste. Et ensuite on fait revenir avec du verre de poireau, de l'oignon, on fait vraiment revenir. Moi j'aime bien quand c'est limite brûlé, que ça commence à accrocher à la poêle. Là boum, on balance, on déglace avec du soja, un trait de citron vert, on fait sauter son riz avec. Et à la fin on ajoute juste un peu de coriandre haché, puis on est bon.
Parfait, merci Maury.
Merci Julie.
Vous venez d'écouter Maury Sacco, premier épisode de la saison 4 d'À Poil. Pour goûter à sa cuisine, rendez-vous chez Mosuke, le restaurant qu'il vient tout juste d'inaugurer, rue Raymond Losserand, dans le 14e arrondissement de Paris. Et pour quelques semaines encore, à Edo, la terrasse du Palais de Tokyo. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte À Poil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.